Bonjour, c'est Simon de l'Atelier des médias. Cette semaine, c'est un hashtag actuellement populaire sur Twitter qui a attiré mon attention. The Africa the media never shows you. L'Afrique que les médias ne vous montrent jamais. À écouter Diana Sala, une jeune Somalienne initiatrice du mouvement, la représentation visuelle de l'Afrique dans les médias est tronquée. Il y manquerait la réussite, les paysages luxuriants, les gens heureux, les histoires du quotidien, tous écrasés par une surreprésentation des conflits, de la misère et de la faim. 70 000 tweets plus tard et à peine 200 de photos, les articles reprenant de façon plutôt démagogique l'histoire de ce buzz internet sont légion. Je dis démagogique parce que ce sont les médias eux-mêmes qui ont repris l'accusation qu'on leur porte, sans jamais la questionner, lui donner de la profondeur, du contexte. Le but unique de ces articles étant trop souvent de profiter d'un buzz pour récupérer du trafic, du clic. J'ai bien dit à peine 200 photos pour 70 000 tweets. Ironie du sort, la plupart de ces photos sont le travail de professionnels et donc venant certainement des médias. Il faut dire qu'il n'est pas facile de trouver des photos autres que celles des safaris et des endroits touristiques sur Internet. Le continent a embrassé Facebook, cet espace fermé, sans passer par la case Flickr, cet espace de stockage photographique généralement ouvert. Rappelons-le, vos photos sur Facebook ne sont accessibles qu'à vos amis, pas au reste du monde. L'Afrique avance, c'est sûr, mais l'urgence des situations existantes sur le continent ne laisse pas vraiment le temps aux médias de traiter le quotidien avec trop de légèreté. Quelqu'un d'autre doit le faire. Quand nous avons créé Mondoblog, notre but n'a jamais été de former des journalistes à travers le monde, mais plutôt de permettre de faire émerger en ligne les histoires quotidiennes, ancrées dans le réel, que les journalistes n'arrivent pas toujours à dépeindre. À bon entendeur.
Très bien, Internet! Qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous,
si vous êtes connecté sur Twitter ou tout autre réseau de partage et que vous vous intéressez, comme moi, comme nous, au nouveau paysage de l'information, vous avez certainement croisé un billet ou un écrit de notre invité cette semaine. Que ce soit sur son blog ou dans des revues scientifiques, il fait partie des trop rares chercheurs qui ont choisi d'épouser la mutation du numérique et de l'Internet pour mieux les comprendre et mieux les expliquer. André Gunther, enseignant-chercheur en histoire visuelle, est notre invité cette semaine pour parler d'images et de photographie. On le retrouve juste après un court message d'un de nos blogueurs maison, Gaius Kowene de République démocratique du Congo. Il a souhaité nous faire passer une information. Après Simon pour l'ouverture de l'émission, c'est donc à Mélissa de prendre les rênes quelques minutes en compagnie de Gaius. Je vous retrouve juste après, je serai avec André Gunther.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Gaius Kowene.
Bonjour Mélissa et bonjour à tous les auditeurs de Atelier des médias.
Tu fais partie de la communauté Mondoblog depuis presque 3 ans. Ton blog s'appelle Amka Africa et tu souhaites faire part à nos auditeurs d'un événement spécial que tu organises aujourd'hui et demain dans ta ville à Goma en RDC. De quoi s'agit-il ?
Alors, Mélissa, il s'agit du Goma Web Activism Summit. C'est une rencontre des web activistes, c'est-à-dire des défenseurs des droits de l'homme, des blogueurs, mais aussi des développeurs web, pour qu'ils se mettent ensemble, discuter de comment ils peuvent pousser de l'avant tout ce qui est démocratie et droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. Et aussi, un autre constat, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de rencontres où il y a des gens qui sortent des résolutions très fortes, très bonnes, mais malheureusement, la plupart de ces recommandations ne sont pas prises en compte. C'est comme ça que nous nous sommes dit pourquoi nous ne pouvons pas nous réunir et prendre des décisions que nous-mêmes nous allons exécuter au lieu de faire des recommandations à des gens qui n'ont rien à faire avec, quoi.
Et comment vont s'organiser ces 2 jours ?
Nous allons avoir d'abord un débat à laquelle beaucoup de gens, j'invite d'ailleurs les gens à participer en ligne déjà, avec le hashtag GWAS15. Et ça va être sur les révoltes constructrices, et où nous allons discuter des mouvements citoyens sur le continent, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Ça va être la grande activité pour la journée du samedi. Pour la journée du dimanche, ça va être la journée où nous allons plus nous consacrer sur les actions pratiques que nous comptons faire après le sommet. Et tout ce qui utilise Twitter, donc, ils peuvent suivre le hashtag GWAS15. WAS15.
Merci beaucoup, Gaius.
Merci beaucoup, Mélissa.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
L'évolution de notre monde médiatique depuis 20 ans est époustouflante. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, une pratique, un outil, une idée vient apporter sa pierre à l'édifice ou son grain de sable. On reconstruit un monde de l'information, de la culture, du vivre ensemble, dont chacun essaye de comprendre, d'imaginer les contours. Toutes sortes de visions, d'anticipations, de théories sont véhiculées. On prophétise, on raille, on s'exalte ou on regrette. Les faux-semblants côtoient les rêves, les analyses, les préjugés, il faut l'admettre, c'est souvent le dernier qui a parlé, qui a raison. Dans ce contexte flou, il existe heureusement des voies de sagesse. Notre invité est l'une d'entre elles. Chercheur reconnu, il n'hésite pas à partager son travail de manière quasi quotidienne sur des blogs. Penseur dépassionné, il parle de cinéma, d'art, de gifs, de remix et de selfies avec un même respect, une même curiosité pour toutes ses formes d'expression. Depuis presque 30 ans, il éclaire ses nombreux lecteurs sur la place de l'image dans notre monde. Monde en mutation. Il accompagne, façonne et décrit la culture visuelle. Bonjour André Gunther.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Vous êtes enseignant-chercheur en histoire visuelle, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous dirigez la revue Études photographiques et depuis 10 ans, vous êtes aussi blogueur, mais vous employez cet outil, le blog, dans le cadre de votre travail de recherche. Tout est juste jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, c'est parfait.
Le blog, votre blog actuel s'appelle L'image sociale. C'est déjà un titre particulier. C'est déjà un choix. Il y en a eu 3 autres. C'est-à-dire que vous avez changé régulièrement de
oui,
maison.
Oui, parce qu'il y a une évolution technique. Donc, il faut suivre cette évolution. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes intéressants. Et c'est formidable de pouvoir participer à cette évolution, dont la dimension qui est technique, c'est-à-dire que qui est un peu la même que d'avoir la main sous le capot de sa voiture, oblige justement à se déplacer en fonction d'évolutions techniques qui nous sont imposées par l'écologie. Donc le premier, c'était Actualité de la recherche en histoire visuelle.
C'était un nom sérieux, voilà, très académique.
Daniel Schneiderman disait que c'était le blog, le nom de blog le plus long de la blogosphère.
C'était en 2005, hein, quand même, il faut le dire.
Ça fait 10 ans, ouais, effectivement, 10 ans. Cette année. Donc ça a duré 5 ans. Il y a eu l'atelier des icônes. Et puis j'ai changé récemment pour améliorer mes technologies d'intégration dans les réseaux sociaux.
Et ce blog, en 2009, votre blog, enfin, je ne sais plus lequel, comment il s'appelait à l'époque, a été l'embryon d'une constellation de blogs, d'une agrégation de blogs, de chercheurs également, s'appelait Culture Visuelle.
Alors, Culture, en fait, c'est un projet, disons qu'à l'époque, et les choses aussi ont changé techniquement depuis, c'était le projet était de faire une sorte de revue 2.0, donc une revue scientifique New Age, avec basée sur la participation, où au lieu d'avoir des sélection d'articles comme font les revues peer-to-peer, eh bien on aurait eu, et on a eu en fait, pendant une durée de 5 ans, une production autogérée par les chercheurs. Et quand je dis chercheurs, il y a eu des participants installés, des professeurs, des maîtres
de conférence,
mais voilà, des doctorants et des masterants, ce qui est encore beaucoup plus intéressant pour moi, parce que on a pu voir émerger des travaux et des discussions, puisque Culture Visuelle, ça a été, et c'est encore en partie aujourd'hui sur hypothèse.org, où on a relocalisé.
C'est encore actif, hein.
C'est actif d'une façon différente, parce que quand on change d'environnement, forcément, on modifie la conversation. Ça, c'est vraiment une des leçons aussi de ce type d'expérience. Donc, il y a eu un parcours vraiment formidable avec les lecteurs, avec les commentaires, par exemple, de professionnels qui ont pu intervenir. Je pense notamment au blog La vie sociale des images de Sylvain Maresca, qui a mobilisé cet outil pour une grande enquête sur les évolutions de la photographie numérique et qui a débouché sur un livre qui est paru l'an dernier qui s'appelle Basculer dans le numérique. Et c'est une partie de cet ouvrage est construit à partir notamment des réactions et des commentaires de photographes sur son blog.
Hypothèse.org, vous l'avez cité, donc c'est un site qui rassemble des blogs de chercheurs, c'est ça en gros?
Je dirais c'est le site français aujourd'hui de micro-publications scientifiques.
Et ce qui est particulier aussi, donc c'est un blog où on va présenter ses travaux, c'est un peu un carnet de recherche aussi, c'est-à-dire montrer au fur et à mesure nos idées, mettre des bouts d'articles, mettre des bouts de livres, etc. C'est une pratique qui est de plus en plus courante dans le milieu de la recherche. Vu de l'extérieur, ça paraît encore un petit peu iconoclaste, ce qui est paradoxal, hein, mais où est-ce qu'on en est de ça?
Je pense qu'on peut encore employer ce mot. Ça se développe, heureusement, ça se diffuse, parce que c'est un outil extrêmement efficace à la fois pour mettre à l'épreuve, publier, diffuser ses propres recherches, mais aussi justement profiter de certaines formes de dialogue et de conversation quand elle a lieu. Moi j'appelle ça des accélérateurs de recherche. Ça fonctionne comme un séminaire de recherche. Dans un séminaire, vous venez avec un matériau qui n'est pas tout à fait fini, c'est pas une conférence, c'est pas un article définitif, vous proposez un matériau qui est encore évolutif. Et donc forcément, à la fin de votre exposé, vous avez des étudiants ou d'autres participants qui interviennent, qui posent des questions, qui critiquent, qui apportent du matériau. Le blog est une sorte de séminaire permanent qui a lieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler plus longuement, mais nous ne sommes pas là pour parler des blogs de recherche, et peut-être que nous y consacrerons une émission, notamment avec les gens d'hypothèse.org qu'on n'a jamais invités, qui font un excellent travail. On va plutôt parler de votre travail, et peut-être de votre spécialité tout d'abord, donc l'histoire visuelle, la culture visuelle, qu'est-ce que c'est ?
C'est très simple, ce sont les usages ordinaires et actuels des images qui ont connu au cours des 15 dernières années une véritable révolution à cause de ce phénomène qui a touché, je dirais, toute la culture et tous les contenus, qui est la numérisation. Alors, dans le domaine des images, c'est une révolution parce que les images avaient été, jusqu'à très récemment, quelque chose d'éminemment matériel. Les images, au fond, sont restées très longtemps des objets. C'est-à-dire qu'elles avaient une place,
donc des,
elles avaient
des négatifs,
un lieu,
des photos,
toutes sortes des cartes postales. Donc une carte postale, c'est un objet, hein, qui a effectivement une image d'un côté, du texte de l'autre, mais c'est un objet. C'est-à-dire c'est quelque chose qui existe dans un endroit et un seul, qu'on ne peut pas consulter à distance, qui peut être partagé une fois, qui a tout un tas de limitations qui sont liées à sa nature, à sa matérialité. Et ça, c'était la vie des images depuis quelques milliers d'années.
C'était les images, et c'était aussi le travail des historiens des images, de décrypter, analyser, sortir des informations, comprendre le passé en étudiant ces images, en gros, c'est ça ?
Voilà, absolument.
Mais vous avez choisi d'appliquer le terme histoire à une histoire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche, qui est quasiment du quotidien.
Alors maintenant, on sait aborder le problème compliqué de l'histoire dite immédiate, très contemporaine. C'est compliqué parce que, bien sûr, quand on est dans le très contemporain, on n'a pas le recul. Et voilà, l'expérience que j'ai faite sur l'observation pendant une dizaine d'années de la transition numérique, c'est que ce recul, on en a sacrément besoin. C'est-à-dire que je me suis trompé un certain nombre de fois.
Et puis il y a des choses qui changent en permanence, des nouveautés qui redirigent la recherche, l'observation.
Mais même les erreurs sont intéressantes, et donc quand on remet ça dans une perspective historique, eh bien les erreurs deviennent des symptômes, des indicateurs de biais, de choses qu'on n'a pas vues. Et donc tout ça, finalement, peut recomposer une histoire récente. Mais j'insiste, une histoire, on peut employer ce terme tout simplement parce que ce qui produit l'histoire, la condition de considérer quelque chose comme historique, c'est le fait que ça appartienne au passé. Or, qu'est-ce qui fait que nous considérons qu'un phénomène appartient au passé? C'est le changement. C'est quelque chose qui se modifie dans l'espace de nos pratiques ou de nos comportements. Or, bien sûr, le numérique a été un accélérateur de changement formidable et donc un producteur d'histoire. C'est-à-dire que un tas de choses, un tas de comportements, un tas de pratiques sont devenus d'un coup du passé. Et dans un espace de temps de 10 ou 15 ans, on a vu en réalité plusieurs évolutions, plusieurs étapes, au moins 3 ou 4, relativement importantes, qui sont passées du présent au passé et qui ont donc créé à chaque fois une nouvelle histoire.
Et en plus, la matière première des historiens, ce sont les archives, et la mise en réseau mondial de toutes les données, de toutes les images, de toutes les informations, etc., crée en permanence des archives, alors qu'avant, il fallait demander au comité départemental de tel ou tel endroit d'accéder à la bibliothèque qui était cachée au fin fond d'un village ou d'une ville, etc., pour accéder à des archives et pouvoir les étudier.
Alors là, le problème est un peu plus compliqué qu'il y paraît, parce que on a d'un côté cette manne de documentaires incroyables et d'ailleurs presque trop importantes. Hein, ça pose d'autres problèmes de le caractère pléthorique de la documentation aujourd'hui.
Et puis dénigré aussi, voilà. C'est-à-dire qu'on ne facilite pas suffisamment la conservation des archives, alors qu'avant on gardait précieusement les communications, etc. Aujourd'hui, tout va très vite.
Voilà. Alors le web a cette caractéristique, effectivement, d'être dans certains de ces domaines extrêmement éphémères, ou bien moins bien organisés, puisque le web, même s'il existe, en réalité, nous nous y déplaçons à travers des filtres qui sont des algorithmes, des moteurs de recherche. Et on voit très bien que un bon nombre de contenus deviennent très vite inaccessibles, non pas qu'ils n'existent plus, qu'ils nous aient été débranchés, le serveur tourne toujours, mais en réalité l'algorithme va nous faire contourner ces contenus et ça pose de nouveaux problèmes à la recherche.
Vous allez publier à la rentrée un livre qui a pour titre provisoire, hein, L'image partagée, histoire culturelle de la photographie numérique. Quand je vous ai proposé de venir, je savais pas que ce livre était en préparation, je ne l'ai su que quelques jours après, j'ai même eu le privilège de lire ces épreuves. Merci d'ailleurs aux éditions textuelles qui me les ont faites parvenir. En avant-première dans l'atelier, nous allons donc parler de cet ouvrage. Il rassemble en fait quelques-uns de vos écrits des 10-15 dernières années, c'est ça à peu près ?
Tout à fait.
Dans un ordre chronologique, il propose, je ne sais pas si j'ai raison, mais en gros, il propose d'apporter des éléments de réponse à cette question que vous posez au début. La photographie numérique est-elle une évolution ou une révolution ?
Voilà. Qu'est-ce que ça a changé ? Et est-ce que ça a changé quelque chose ? Ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que cette question était un préalable. C'est-à-dire qu'avant même que ça change quoi que ce soit, la numérisation des images a fait naître cette question sous la forme, d'ailleurs, d'une sorte de fin de non-recevoir, puisque les premières expériences de numérisation ont conduit à l'expression d'une théorie qui a été celle de la fin de la photographie. Je parle du milieu des années 90.
Alors, pour situer, le début de la photographie numérique, en gros, c'est 1965, c'est ça, le tout début, avec un satellite qui, donc Mariner 4, qui envoie des données numériques visuelles, donc qui sont un peu les ancêtres des JPEG et des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Je prends ce cas, on peut discuter, hein, mais ce cas il est intéressant parce que le choix qui a été celui donc de la première effectivement du premier échantillonnage de données visuelles faites à partir d'une caméra vidéo, il est dû à un paramètre particulier qui est l'extrême distance qui nous sépare de la planète Mars, donc en moyenne 60 millions de kilomètres, une distance qui aurait rendu impossible l'usage de la transmission d'informations par radio, ce qui était ce qu'on faisait juste avant. Et on avait produit déjà des images de la Lune, par exemple, transmises sous forme hertzienne. Et là, d'un coup, c'est trop loin. Donc, cette distance crée de nouvelles conditions et l'échantillonnage, donc la numérisation, le fait de découper en tranches, en quelque sorte, de l'information visuelle qui, en l'occurrence, voilà, c'est la surface de Mars qui va être transmise par radio, mais sous forme numérique, ce qui est donc une façon plus stable pour être transmis dans les immenses distances de l'espace, a permis de faire arriver sur la Terre en 1965, les premières images numériques qui sont effectivement les images de la planète Mars.
Et donc la NASA, d'une certaine manière, a un petit peu inventé la photographie numérique.
A participé à l'invention. Alors attention, c'est intéressant, c'est une vidéo. On va voir tout que ça va devenir très vite un problème pour la photographie, hein, qui est la technologie de l'image fixe. La technologie numérique n'est pas née dans le domaine de la photo, mais dans celui de la vidéo. Voilà, le caméscope, hein, en quelque sorte. Et ce qui est amusant, c'est que cet appareil grand public, donc, apparaît pour la première fois dans le film Retour vers le futur de Robert Zemeckis, où on voit effectivement cette machine à remonter le temps qui est filmée par Marty McFly comme preuve de la réalité de cette expérience. Donc c'est formidable parce que la discussion qui va avoir lieu tout de suite dans les années 90, c'est-à-dire en fait au moment de l'apparition de Photoshop, ce fameux logiciel de retouche qui permet de modifier, de manipuler l'image. Et c'est de là que va venir le problème principal de la photographie numérique et ce qu'on va appeler la fin de la photographie. D'un coup, voilà, Photoshop, c'est une catastrophe. Le contrat de vérité de l'image s'effondre. Donc tous les spécialistes sont très angoissés et nous racontent une histoire qui est celle de la fin de l'image. Mais quelques années avant, en vidéo, on a utilisé la technologie numérique comme preuve d'une expérience, même si c'est au cinéma. Vous voyez comme les choses sont compliquées et contradictoires.
Courte pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec l'enseignant-chercheur André Gunther. Il est spécialiste de l'histoire visuelle et prépare un livre qui sera publié à la rentrée de septembre sur l'histoire de la photographie numérique. Avant la pause, nous étions en train d'évoquer la manière dont le numérique s'est imposé dans l'image et surtout la réaction des spécialistes de l'image, de la photographie dans les années 90 qui voyaient arriver une nouvelle technologie. Parmi ces spécialistes, André Gunther, il y a William Mitchell, qui est très connu pour avoir prophétisé la fin de la photographie. Il a écrit un livre célèbre qui s'intitule « L'œil reconfiguré » au début des années 90. Il y explique que la différence entre la photographie numérique et une photographie argentique est aussi forte qu'entre une photographie argentique, c'est-à-dire à la méthode ancienne, et un tableau peint par un peintre. C'est totalement différent. Pour lui, ça n'est pas la même chose.
Ça n'est pas la même chose. On perd quelque chose qui était une croyance très forte de la photographie argentique, qui était que il existait une relation un peu mystique entre l'objet photographié et le récepteur, puisque à travers le photon, à travers la lumière,
les particules de lumière
émanaient de l'objet et étaient directement enregistrées par le support argentique. Donc il y a eu très longtemps, pendant un siècle à peu près, cette idée que la photo c'était une trace, comme une empreinte de pas véritablement d'animal dans la forêt, quoi.
Et vous appelez ça une relation indicielle, c'est ça?
C'est la théorie de l'indicialité.
Qui était portée par Rosalind Krauss, c'est
notamment,
ça? Voilà, notamment.
Mais on trouve aussi idée chez Roland Barthes. En gros, tous les grands théoriciens de la photographie se sont intéressés à la photographie à cause de ce caractère d'empreinte.
C'est-à-dire qu'il y avait une relation physique forte entre le sujet de la photographie et le film sur lequel on allait recueillir son image.
Il y avait cette croyance. Voilà, parce qu'en fait, c'est une pure fiction. On a une façon très simple de s'en rendre compte, c'est que c'est la même technologie qu'on a utilisée pour le cinéma. Et bien sûr, au cinéma, comme le cinéma est un véhicule de fiction, majoritairement, eh bien, on n'a pas du tout mobilisé cette théorie de l'empreinte, cette indicialité, etc. On a dit, voilà, bon, on a parlé du cinéma comme on parle de la littérature, c'est-à-dire parce que le cinéma nous raconte des histoires. Mais on a fabriqué ce modèle théorique sur la photographie pour raconter quelque chose de très précis et de très important dans l'histoire des images, qui est une garantie de vérité. C'est-à-dire que la photographie a été pensée comme une image particulière qui garantissait, par les conditions de réalisation technologique de l'image, une véridicité supérieure à toute autre forme graphique, hein, en particulier la peinture, le dessin, où intervenait la médiation de la main. Et donc, cette image-là avait une qualité que n'avait aucune autre image. Donc, on comprend bien que cette croyance qu'a, par exemple, sur laquelle a disserté Walter Benjamin dans les années 30, était si implantée dans la pratique photographique et puis dans les applications de photographie scientifique ou de photojournalisme, bien sûr, hein, où cette condition de l'objectivité est majeure, on comprend mieux à quel point la photo numérique a pu apparaître comme une sorte de catastrophe.
Et d'ailleurs, il y a une interpénétration des vocabulaires, parce qu'on utilise le mot objectif pour dire que c'est vrai, et donc l'objectif c'est ce qu'on utilise pour l'appareil photo, et d'ailleurs c'est la première source de subjectivité puisque c'est l'objectif qui va traiter la lumière et qui va changer un petit peu la réalité, et c'est en jouant avec l'objectif qu'on peut jouer justement avec la réalité, donc
oui,
c'est
oui,
plein
oui,
de paradoxes.
Vous soulignez quelque chose qui est très amusant. En fait, c'est très bizarre que l'objectif s'appelle objectif, on devrait l'appeler le subjectif puisque c'est précisément en changeant d'objectif, d'optique, que on modifie les conditions de production de l'image. Donc, en fait, pour fabriquer une image photographique ou vidéo ou cinéma, on a besoin de deux composantes. On a besoin d'un support d'enregistrement, hein, qui peut être le film argentique ou la plaque,
le capteur numérique.
Ça, c'est la part enregistrement. Mais on a aussi besoin de quelque chose qui transforme le réel, qui ne fait pas image de lui-même. Là, vous êtes devant moi, hein, on se voit, on est face à face, mais il n'y a pas d'image entre nous, il n'y a pas de projection d'image, parce que ce qui crée l'image, c'est la projection optique. Et la projection optique, c'est une transformation. C'est une transformation du réel, c'est une mise en ordre des rayons lumineux, qui est la condition pour qu'existe une image. Et une projection optique, elle n'est pas objective. Voilà, elle n'est jamais objective, parce que selon la façon dont vous la produisez, Vous changez la géométrie du sujet, vous changez le haut et le bas, vous changez la couleur. Tous les photographes savent que en changeant d'optique, on va prendre plutôt ce terme, hein, plutôt qu'objectif, en changeant d'optique, eh bien, vous allez donner une teinte à l'image. Elle va être plus rose ou plus jaune ou plus bleue, selon véritablement la qualité des verres et les types d'optique que vous employez. Donc, une optique, c'est ce qui modifie en fait l'image.
Alors, il y a deux grands mythes qui accueillent l'arrivée de la photographie numérique. Le premier, c'est donc, on va parler du deuxième, mais le premier, c'est donc celui du fait qu'on ne pourra plus faire confiance, en gros, aux images, puisque c'est numérisé, etc. Ce qui contribue à mettre à bas ce mythe, ce sont les premières images amateurs qui font la une des journaux, enfin, peut-être pas les premières, mais en tout cas, parmi les premières et peut-être les plus puissantes, ce sont celles d'Abu Ghraib, en Irak, donc de la prison d'Abu Ghraib, où des soldats se sont pris en photo en train, entre guillemets, de torturer des prisonniers.
Voilà, c'était du
2004.
Mai 2004, c'est du tourisme de guerre. On a donc ces photographies qui vont faire scandale, un énorme scandale à l'échelle mondiale, de photographies qui sont des ancêtres des selfies, hein,
des
autophotographies donc faites par les acteurs eux-mêmes, donc en l'occurrence des soldats, des gardiens de la prison d'Abu Ghraib, et ces gardiens se photographient en train de participer à des violences, voire à des tortures sur les prisonniers irakiens. Scandale énorme. Ces photographies, qui sont donc des petites photographies numériques, vont être les premières, et ça c'est très important, il y a eu des photographies numériques avant. On en voit dans la presse depuis le milieu des années 90. Mais ces photographies ne sont jamais désignées comme des photographies numériques. Au fond, il se passe un phénomène très intéressant sur le plan de l'histoire des techniques. La transition numérique s'effectue à très bas bruit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas médiatisée, elle n'est pas décrite, elle n'est pas racontée, et on passe d'une technologie à l'autre sans que les consommateurs, les usagers, s'en rendent compte.
Alors,
les photographies d'Abu Ghraib, c'est les premières qu'on désigne comme des photographies numériques. On dit, voilà, c'est des photographies numériques, d'abord parce que ce sont des photos amateurs qui ont été faites sur place en Irak. Comment ça se fait qu'elles se retrouvent aux États-Unis à quelques semaines d'intervalle? Eh bien, c'est parce qu'elles ont été envoyées par Internet. Donc, notamment, des soldats ont envoyé certaines de ces photos à leur famille. Et puis, il y a des lanceurs d'alerte qui ont essayé de transmettre ces images. Donc, il y a la transmission. Et puis, ça se voit dans l'image. Ces images sont de mauvaise qualité. Ce sont des petites photos qu'on faisait en 2003, 2004, avec les appareils à 1 million et demi de pixels. Donc ça fait des petits fichiers numériques, et ces images, lorsqu'elles sont agrandies, lorsqu'elles passent à la télévision ou dans les journaux, on voit les pixels. Et donc là, on est bien obligé de dire que c'est de l'image numérique, et du coup, cette image numérique qui sert de preuve à charge contre des gens qui vont être condamnés effectivement par la justice, change complètement le récit, puisque c'est plus la fin de la photographie, c'est au contraire une prolongation. La photographie numérique fait son office d'image preuve, comme la photographie argentique.
Et ceux qui avaient prophétisé le doute permanent se sont trompés, et ils se sont trompés parce que c'était un petit peu les fondements de la théorie photographique qui étaient erronés. C'est-à-dire, on se trompait totalement sur la manière dont on... Et d'ailleurs, ces nouvelles techniques ont permis d'affiner, de repenser cette théorie, comme beaucoup d'autres.
Alors, en l'occurrence, on a complètement changé, effectivement, en l'espace d'une dizaine d'années, d'approche théorique de l'image photographique, ce qui est... c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire des représentations, puisqu'on avait une théorie qui était vraiment fondatrice de la compréhension du médium, qui s'évanouit, qui s'évapore dans l'espace, et qui laisse place à une autre approche théorique qui, aujourd'hui, décrit, finalement, l'image photographique, je dirais, comme une image comme une autre. Et non plus sous une sorte de statut d'exceptionnalité que lui conférait la technique. Et ça, c'était une fiction. Ça nous est apparu, je dirais, au moment d'Abu Ghraib et à cause d'Abu Ghraib. C'est une prise de conscience appuyée sur la pratique et un constat qui vient de l'actualité. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça se passe pas souvent de cette façon-là. En général, les théories, ce sont les recherches scientifiques qui les font évoluer. Et donc on a des propositions abstraites qu'on lit dans des revues scientifiques, et puis qui, 10 ans après, deviennent vulgarisées dans les journaux. Là, c'est presque le contraire, hein. C'est l'actualité brute, le scandale d'Abu Ghraib, qui fait que d'un coup, une théorie s'avère inadéquate et qu'on est obligé d'en changer dans l'instant.
Alors, ce débat sur l'objectivité de l'image, sur l'impossibilité de retoucher quand il s'agit d'une image d'information, etc., c'est un débat qui persiste encore aujourd'hui, mais sur lequel on avance hein, quand même. C'est-à-dire que le World Press Photo est en train maintenant de primer des images qui sont manifestement mises en scène, etc. On comprend que, finalement, le regard du photographe, c'est quelque chose d'important, y compris quand il s'agit d'informer. C'est nécessairement subjectif.
Alors, vous simplifiez beaucoup une discussion qui est extrêmement chaude à l'heure actuelle. Je pense qu'on va en parler encore en septembre à Perpignan pour la nouvelle édition du festival.
De Visa pour l'image.
Parce que
du photojournalisme.
Voilà, il y a une controverse qui oppose aujourd'hui des tenants d'options différentes. Donc effectivement, le WordPress, qui est un organisme chargé depuis 1954, si ma mémoire est bonne, de primer les meilleurs, de couronner par des prix les meilleures images du photojournalisme, a décidé de suivre une évolution qui est en partie au moins une évolution des pratiques des photoreporteurs et notamment des plus jeunes qui ont, je dirais, intégré dans leurs pratiques et donc dans leur style d'image des aspects qui sont donnés par les nouvelles technologies, donc en particulier les capacités de post-production. Ça ne veut pas dire que vous enlevez un personnage dans une image, mais que vous pouvez modifier la couleur, le rendu, le contraste, la profondeur d'une image. Donc, dans des notions assez subtiles, finalement. Et là, voilà, il y a une polémique entre ceux qui veulent rester à l'ancienne manière, en disant, voilà, on ne change rien et on respecte complètement les données techniques initiales, et ceux qui pensent qu'une évolution est intéressante et qui vont produire des images un peu différentes. Donc le World Press a suivi plutôt cette deuxième voie et aujourd'hui donc il se trouve au cœur d'une polémique qui est bien illustrée par Visa puisque Visa a décidé, Jean-François Leroy a décidé cette année de ne plus exposer ce qui est un cataclysme, le World Press Photo à Perpignan.
Et juste pour terminer sur ça, mais on pourrait en parler encore des heures, l'idée aussi d'affirmer son style, c'est aussi une forme de signature, et la signature, c'est quelque chose de plus en plus important dans le bruit ambiant. On a besoin de savoir qui fait les choses, on a besoin de savoir qui est la source, on a aussi besoin de construire des relations de confiance avec des individus, et c'est peut-être avoir pris acte de cette réalité aussi pour les jeunes photographes.
Alors, je vous suis absolument parce que au fond, je pense qu'on est en train de passer d'une esthétique de l'objectivité qui nous est léguée par le 19e siècle, l'invention de la science moderne, etc., à une esthétique de la subjectivité
et de la confiance.
De la confiance vérifiée, de la confiance testée et vérifiée, puisque c'est la même qui aujourd'hui marque l'expression des avis sur les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire que sur Twitter, un avis est signé, et finalement, ça, c'est plus important, c'est une marque d'authenticité plus importante que la pertinence du message. C'est-à-dire de savoir d'où ça vient, c'est devenu beaucoup plus important que de croire en général et de façon abstraite, à une marque, par exemple, à un journal, à une marque de presse, qui nous garantirait a priori l'exactitude des messages. Aujourd'hui, une signature individuelle est devenue finalement plus fiable qu'une marque journalistique. C'est un des nombreux symptômes de ce passage d'une esthétique de l'objectivité vers une esthétique de la subjectivité, et on voit que ça change tout. Hein. On voit que ça change notre façon de comprendre l'information, de la trier, de la partager sur les réseaux sociaux, qui sont aussi des lieux de notre interaction avec l'information. Et par rapport à ça, là aussi, sous une forme polémique, sous une forme de controverse, on a en opposition les marques de presse qui continuent à vouloir faire exister l'esthétique de l'objectivité, mais on voit que ça devient de plus en plus compliqué.
On a parlé, André Günther, du premier malentendu qui accueille l'arrivée de la photographie numérique. Donc c'est ce soupçon, l'idée que c'est la fin de la véritable photographie, c'est une nouvelle forme de reproduction du réel en qui on peut pas avoir confiance. Ça, c'est né dans les années 90, ça continue encore de manière très très forte, le débat et tout ce qui s'ensuit, tout ce que ça inclut, ça continue de manière encore très forte aujourd'hui. Il y a un deuxième malentendu qui naît, lui, plutôt au milieu des années 2000, avec l'arrivée du web participatif, du web 2.0. Avec une technologie, le flux RSS, qui permet de rendre plus dynamique le web. Ce deuxième malentendu, c'est que tout le monde va devenir journaliste.
Voilà, j'appelle ça le malentendu ou le motif de la concurrence des amateurs, qui est quelque chose. Alors, c'est très compliqué cette histoire. C'est une modification de l'économie d'abord. ça témoigne le passage du mythe numéro 1 au mythe numéro 2. Témoigne aussi d'une très intéressante évolution de la compréhension de nos pratiques qu'on va lier à l'économie. On a eu encore récemment un exemple en France de cette polémique, de cette divergence avec l'histoire des taxis. Hein. Et donc Uber, représentant allégué
de la rupture,
d'une économie du partage, alors que bon, Uber est plutôt un prédateur de l'économie du partage
c'est
en réalité.
Exactement ça.
Mais voilà, en opposition avec une ancienne économie, en l'occurrence elle plutôt mafieuse, et donc on a quelque chose qui est cette idée d'une concurrence déloyale par de nouveaux acteurs qui vont être, disons, désignés comme des amateurs, comme des non-professionnels.
Et en ciblant Uber, c'est de manière caricaturale, les Anglais appellent ça « shoot the messenger », c'est qu'on est en train de cibler le porteur du message. Le message, c'est que la donne a changé, que les gens peuvent s'organiser entre eux. Lui en profite d'une manière abusive, mais que les gens puissent s'organiser entre eux et que la donne a changé, ça c'est immuable.
Oui, c'est certainement quelque chose sur quoi on ne pourra plus revenir. Il s'avère que ça se produit en même temps qu'une évolution fondamentale, très importante, de nos économies et de nos systèmes politiques. Tout ça se passe en même temps. Alors, ce qui est très facile à partir de cette modification globale, c'est de pointer Internet ou les nouvelles technologies du doigt en disant « c'est la faute des outils ». C'est la faute des robots, c'est la faute d'Internet,
c'est la faute du web, etc. En fait, puisqu'il y a un discours parallèlement de support de la French Tech, etc., Blablacar et compagnie, qui font exactement la même chose que Uber, à part que ça n'est pas considéré comme du travail déguisé parce que c'est moins régulier, etc. Mais en gros, ils se servent exactement du même outil pour faire à peu près le même genre de service.
Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est face à un phénomène socio-économique global qui impacte les économies du monde entier depuis 25 à 30 ans et qui est la fin du salariat déjà, ça c'est clair, et certains parlent même de la fin du travail au sens d'un point de repère économique et social constitué, protégé. Et donc, ce qui cause cette évolution, ce sont les acteurs de l'économie néolibérale, politique ou industrielle. Les outils ne sont, comme d'habitude, que des instruments de cette évolution. Alors, les ordinateurs et Internet sont arrivés en même temps que cette évolution économique, et du coup, ça a créé une espèce d'illusion d'optique ou d'illusion de perspective. Donc, il est tout à fait logique qu'on ait cru cette chose-là et que donc la fiction de la concurrence des amateurs se soit installée dans le monde de la photographie, où les professionnels qui se sont trouvés face à des problèmes très complexes et en particulier à une perte de valeur des images, au prétexte que d'un coup il y en avait des millions, ce qui est franchement complètement idiot parce que il n'y a pas de rapport en termes industriels entre une image produite par un professionnel et une image produite par un amateur. C'est en fait de confondre les deux. C'est un des ressorts de la perte de valeur qu'on impose aux professionnels. Mais un professionnel, quand il produit une image, il produit pas seulement une image, il produit une garantie juridique, il produit un contrat à caractère économique.
Enfin, il offre un savoir-faire.
Exactement. Il y a tout un tas de choses qui vont avec et qu'on ne voit plus parce que on ne voit que l'image. Mais c'est une erreur. Hein. D'ailleurs, les photos d'amateurs, à partir du moment où elles circulent par l'intermédiaire de Twitter, ben on s'aperçoit qu'elles sont mal datées, qu'elles sont mal légendées, qu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Ça pose tout un tas de problèmes, et quand elles arrivent sur TF1, effectivement, voilà. Mais c'est normal, les photos d'amateurs, elles ne remplissent aucun contrat, hein, elles n'ont pas de garantie juridique, ce sont précisément des images d'amateurs. Il n'y a pas de rapport entre les deux, c'est une erreur, en fait, de croire que ces deux images sont semblables simplement parce que c'est des images, mais, en effet, on a vu beaucoup de professionnels soumis à cette espèce d'inflation numérique de l'image, penser de bonne foi que les amateurs devenaient leurs concurrents, et donc avoir des stratégies par rapport à cette nouvelle situation dont je pense qu'elles leur ont pas rendu service finalement.
Et l'un des événements déclencheurs de ce questionnement sur la place des amateurs et sont-ils tous devenus des journalistes, ce sont les attentats de Londres de juillet 2005, et c'est en fait une situation de fait, c'est-à-dire que il y a eu des attentats dans des souterrains, les autorités ont immédiatement bloqué les souterrains. À l'époque, les gens n'avaient pas encore les smartphones, on va parler des smartphones, mais ils avaient des appareils, des téléphones qui avaient quand même des photos.
Déjà...
Voilà, donc naturellement, des gens ont commencé à prendre des photos, etc. Et la BBC, ne pouvant envoyer des journalistes ou recueillir des photos de photographes professionnels dans le métro, a demandé immédiatement aux personnes de participer, d'envoyer leurs images pour pouvoir montrer ce qui s'était passé.
Et il s'est passé qu'il y a eu donc quelques photos et plusieurs vidéos qui ont été par exemple publiées le lendemain. La BBC a diffusé le lendemain des attentats pas mal d'images issues donc de prises de vue amateurs. Mais le rythme médiatique étant ce qu'il est, il n'y a que deux images, les deux plus anciennes, qui sont arrivées avant midi aux rédactions, qui ont été reprises le lendemain, en particulier pour faire la une d'un certain nombre de journaux. Et donc ces deux photos assez spectaculaires, où on voit un visage dans un halo de lumière
verte. C'est très sombre, voilà. On comprend qu'il n'y a plus de lumière dans le métro, etc.
On ne voit pas très bien ce qui se passe, mais voilà, on nous dit, ce sont des images prises dans le métro au moment des attentats, c'est très spectaculaire. Et donc ces images vont donner lieu effectivement à une interprétation. Il s'avère qu'elles sont prises par les premiers camphones, par ces téléphones portables munis de caméras photographiques ou vidéo. Et donc, on va voir une hypothèse médiatique, enfin une théorie médiatique très sexy, se diffuser, donc se répandre rapidement, pour dire, voilà, la photographie numérique, et en l'occurrence le camphone, va remplacer les professionnels, la télévision, les reporters. Et demain, nous serons dans la situation d'une espèce de consommation directe hein, du producteur au consommateur. Avec une autoproduction de l'image par les acteurs d'un drame et l'utilisation immédiate de cette iconographie par la presse. Donc, autrement dit, une évacuation de tout le monde professionnel. Donc, on comprend qu'il y avait de quoi s'inquiéter.
Je vous cite. Tous journalistes, contrairement aux préjugés qui situent la photographie amateur dans un contexte de concurrence médiatique, l'enregistrement représente pour les personnes privées une façon de gérer leur rapport à l'événement, une façon d'affronter le choc d'une réalité écrasante. Face au traumatisme, produire des images est une activité qui permet de reprendre pied, de se situer dans le processus, de se réapproprier l'événement. L'idée d'une compétition subie par les organes de presse ne cadre pas avec la réalité des pratiques. Il n'existe d'ailleurs aucune façon pour les amateurs d'imposer leur production au sein des grands médias. Comme le montre l'exemple de la BBC, l'invitation à communiquer son témoignage émane bel et bien des rédactions qui conservent le privilège du choix et de l'éditorialisation des contributions.
Voilà, la plus ancienne photo prise dans le métro de Londres, qui celle qui a fait le plus de bruit et qui a été reproduite en effet à la télévision et dans la presse, c'est pas une photo qui est destinée à la presse. C'est une photo que prend la victime de l'attentat. Il demande en fait à un ami de le prendre en photo pour l'envoyer à ses proches, pour les rassurer et pour leur dire « je suis encore en vie ». Je ne suis pas mort dans cet attentat horrible. Donc, c'était pas une image qui était destinée à arriver à la télévision. Voilà. Une fois qu'elle est, elle va circuler d'abord sur Flickr, et puis sur Wikipédia. Donc, une fois que le processus est engagé, cette image devient virale et elle va être reproduite partout et donc aussi à la télévision. Mais c'est une recontextualisation d'une image qui est en réalité très utilitaire, au sens d'une information privée, qui n'avait pas vocation, en fait, à être utilisé en contexte presse.
Alors là, nous sommes en 2005. 2005, c'est la préhistoire pour le web. C'est aussi la préhistoire pour les téléphones mobiles. Hein. Quelques mois avant les attentats de Londres, en 2004, est lancée la plateforme Flickr, qui donc capitalise sur les nouvelles possibilités du web, ce qu'on appelle le web 2.0. Et là, quand même, pour l'instant, on était occupé à tordre le cou au mythe, hein, le mythe du photographe amateur qui remplace le journaliste, le mythe de la photo numérique qui n'est pas fiable, etc. Là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer de manière importante. C'est que en permettant aux individus de partager à l'échelle planétaire leurs images, en permettant aussi de les renseigner, ces renseignements, ce qu'on appelle des tags, des mots-clés, vont permettre de les classer, vont permettre de faire des recherches. Là, la donne a changé.
De les taguer, de faire des recherches et de les commenter. Flickr est le premier espace sur lequel vous pouvez étendre une pratique qui est celle des clubs de photographie amateur. Donc ça existe depuis le 19e siècle, mais toujours dans un espace restreint, hein, pour quelques dizaines de personnes. Et là, en effet, on peut faire à l'échelle mondiale, donc d'abord voir les images en quelque sorte comme sorties des albums privés de chacun, mais au Japon, à Rio, en Australie, où vous voulez. Et on peut discuter de ces images. Et c'est ça qui change tout. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, ce qui est très important, c'est que les deux mythes que nous avons rappelés, donc la fin de la photographie ou la concurrence des amateurs, sont des mythes qui portent sur la technologie, qui portent sur les outils, et qui ne regardent que les outils. Et en regardant les outils, on oublie de regarder ce que les gens font avec les usages des images. Et Flickr nous montre ça. Et en particulier, il nous montre que les gens, les images, ça les fait parler, ça les fait discuter. Mettre une image sur Flickr, c'est une chose. Mais ensuite, il se passe un certain nombre de choses, et dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on recherche quand on met une image sur Flickr, hein, on recherche la conversation. Donc ces images produisent de la conversation, deviennent des embrayeurs de conversation. Et bien sûr que c'est ça qui va être la rupture formidable, ce qu'apporte véritablement l'image numérique, hein, c'est pas de nouveaux outils, c'est de nouvelles façons d'utiliser les images.
Merci André Gunter, il nous reste tellement de choses à nous dire que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cet entretien.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 389 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la ville ou même la campagne, vous faites bien, partager cette pratique autour de vous, le podcast. Et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine, nous serons encore avec André Gunter.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.